Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, chers fidèles, aujourd'hui, le 30 mai, s'il n'y avait pas de la fête de Dieu, nous célébrerions la fête de Sainte Jeanne d'Arc. La pucelle cède respectueusement la place à Jésus-Hostie et s'incline, comme durant toute sa vie, devant la majesté de Dieu Tout-Puissant, mais caché sous l'apparence d'un tout petit morceau du pain. Il y a 3 semaines, le 8 mai, on ne nous a pas permis de rendre hommage publiquement à Angers par une messe solennelle, à celle qu'on appelle la Sainte de la Patrie, soit. C'est donc aujourd'hui que nous rendons hommage non pas à elle, elle ne l'aurait pas souhaité ce jour de la fête de Dieu, nous voudrions juste témoigner notre vénération envers sa dévotion, son amour pour Jésus Hostie. Nous allons donc tout simplement parcourir les 3 étapes clés de sa vie. Son enfance, sa vie guerrière, enfin, sa mort. D'abord, son enfance. On peut dire, sans aucune exagération, que toute l'enfance de Sainte Jeanne gravitait autour de l'église et de l'autel de Domrémy. C'est là qu'elle se prépare de loin à sa première communion. Chaque matin, elle assiste à la Sainte Messe et bien souvent, elle revient visiter Jésus Hostie au tabernacle. À la maison, en plein travaux de champ, au milieu des pâturages, quand la cloche sonne l'Angelus, elle lève ses yeux vers le clocher qui abrite son Dieu. Et quand elle s'endort, sa dernière pensée s'envole encore vers le Dieu caché dans l'Eucharistie. Mais sa préparation à sa première communion ne se limite pas à ces quelques exercices de dévotion. Bien que déjà pure comme un lys, elle se confesse souvent. Les plus petites imperfections lui sautent aux yeux comme les atomes de poussière dans un rayon de soleil. Elle s'empresse d'en purifier son âme. Pour son Dieu, elle la veut blanche et pure. Ainsi préparée par ses prières et ses confessions, Jeanne s'approche enfin de la Sainte Table. On suppose que sa première communion s'est faite d'une manière privée, comme souvent aujourd'hui. Chaque enfant faisait la sienne lorsque son confesseur l'en jugeait digne. Et son curé la jugea plus mûre, plus digne que les autres. « C'est une bonne chrétienne, » disait le prêtre, « je n'en ai jamais vu de meilleure, et il n'y a pas sa pareille dans toute la paroisse. » Les communions de Jeanne deviennent bientôt aussi fréquentes que ferventes. Elle y trouve la source de toutes ses vertus. Elle est pure, elle est angélique, parce qu'elle communie au pain immaculé des anges. Elle est généreuse, elle est vaillante, parce qu'elle mange le pain des forts. Disons que c'est à l'école de l'Eucharistie que l'âme de la pucelle se forme doucement, mais sûrement. Et quand vient le moment où elle entend pour la première fois, vers 12 ans et demi, la voix de Saint Michel Archange lui disant « Il y a grande pitié au royaume de France ». Fille de Dieu, va en France, il le faut. Jeanne, effrayée en face d'une telle responsabilité, regardant sa propre faiblesse, elle recourt sûrement comme d'instinct à Jésus Hostie pour lui demander son aide. Il serait facile, chers fidèles, de s'imaginer cette demande. La guerre décime ma patrie, lui dirait-elle. Et vous voulez, mon Jésus, que je me jette dans ce péril. Fiat, soit, je combattrai, mais soyez ma force, venez à mon secours. Une telle supplication ne pourrait pas être rejetée. D'ailleurs, nous disons, dans la secrète de la messe de notre sainte, je cite, que cette victime salutaire nous confère, Seigneur, dans les circonstances difficiles, la force dont la bienheureuse Jeanne, au temps de périls de toutes sortes, a donné des exemples si éclatants, au point que, pour chasser les ennemis, elle n'hésita pas à affronter même les dangers de la guerre. Après son enfance, passons donc à cette guerre, à la deuxième étape de la vie de Sainte Jeanne, celle de sa vie guerrière. À l'âge de 17 ans, elle est jetée dans la vie la plus agitée, la plus mouvementée, la plus absorbante que soit, celle des camps. Et malgré tout, elle trouve le temps pour assister chaque matin à la messe que célèbre son aumônier. Il semble que c'est à cette époque que ses communions deviennent plus émues. Les témoins de sa vie raconteront un jour de l'avoir vu verser d'abondantes larmes au moment de l'élévation, de pleurer à grosses larmes au moment de communion, comme ses yeux se portaient sur la sainte hostie, enfin de se retirer de la sainte table, le visage baigné de pleurs. Mais pourquoi ces manifestations, à première vue, étonnantes? C'est que plus elle avance dans sa vocation, dans sa brillante et pénible carrière, plus elle sent le besoin de l'aide, besoin de son Dieu, aussi bien pour elle que pour les autres. Elle prie Dieu aussi pour ses parents, pour tous ceux qu'elle a laissés au village et qu'elle ne reverra plus jamais. Elle prie pour ses soldats, qu'elle mène à la victoire ou à la mort. Pour ces derniers, elle demande le repos et le bonheur éternel. Elle prie le pain des forts, la force des martyrs, pour elle-même, car elle sait que bientôt elle succombera. Elle prie enfin et surtout pour la France, pour que Dieu la relève de ses abaissements, pour qu'il lui rende son indépendance, pour que la France devienne son pays à lui, fidèle à sa vocation de fille aînée de l'Église, et noblesse oblige. La voilà à la tête d'une armée prête à la suivre partout. La pucelle en profite pour entraîner ses soldats à la table sainte, et pour mieux les attirer à l'autel, elle forme une sorte de bataillon d'élite, composé uniquement des hommes les plus dévots, les plus pieux de son armée, de ceux qui se confessaient et communiaient le plus souvent. C'est avec ces hommes d'élite qu'elle remporte ses plus belles victoires. Séparée d'eux, elle est hésitante. Avec eux, elle ne craint pas d'affronter les armées les plus redoutables de l'ennemi. Elle les fait réveiller de bonne heure au matin des plus rudes journées, pour qu'ils puissent assister avec elle à la messe et y communier. C'est bien à cette piété eucharistique, piété vraie, sans feinte, que l'Église attribue le triomphe de la pucelle. Voici la post-communion de sa messe. Je cite. À nous qui sommes restaurés par le pain céleste, qui tant de fois a soutenu la bienheureuse Jeanne en vue de la victoire, accordez, nous le demandons, Dieu Tout-Puissant, que cet aliment du salut nous rende victorieux de nos ennemis. Enfin, chers fidèles, nous arrivons à la dernière étape de sa vie, à sa mort. Jusqu'à là, Jeanne marche dans la gloire. Mais voici que les prises s'accompagnent, livrées aux Anglais, traînées de prison en prison jusqu'au boucher de Rouen. Au milieu de ces épreuves, elle a besoin d'un consolateur et d'un soutien. C'est Jésus aussi qu'elle attend et qu'elle implore. Et le bon Dieu semble ne pas l'entendre. En plus, les ennemis de la pucelle, eux qui savent, on ne sait pas d'où, l'énergie qu'elle puisait dans l'Eucharistie, prennent la résolution de l'en écarter. Ils l'en déclarent indigne, parce que excommunié. Tout cela pour l'affaiblir, l'épuiser. Et cela pour Jeanne équivalait à l'inanition, à l'agonie spirituelle bien lente. Excommunié de la Sainte Communion. Et Jésus aussi se cachait. Mais parfois, il se laissait trouver par son ardente adoratrice. Un jour, elle passe devant la chapelle du château pour aller à une séance du tribunal. Elle demande à Maître Massieu s'il a été réservé le Saint-Sacrement. Sur sa réponse affirmative, elle tombe à genoux sur la dalle devant la porte fermée pour y prier et y adorer un instant le Sauveur Jésus. Enfin, il faudra la poigne des geôliers pour l'en arracher. Cependant, le bon Dieu réserve à Jeanne une suprême consolation avant son supplice. Le dernier jour est arrivé. Voilà 6 mois que la prisonnière jeûne de l'Eucharistie. Quand elle apprend qu'elle va mourir, elle supplie frère Martin l'advenu de lui apporter le bon Dieu. Contre toute prévision, la défense antérieure est levée, un vrai miracle. Quand le prêtre entre dans son cachot, à la vue de l'hostie, si longtemps désirée, Jeanne tressaille et éclate en sanglots. Elle ne peut contenir les élans de son cœur. Elle élève la voix et dit à son Dieu de douces et naïves prières. Elle est témoin même, de cette dernière communion de la pucelle, très émue et profondément édifiée, ne peuvent retenir leurs larmes. Voilà, notre Seigneur gardait si longtemps le silence. Il dormait, comme jadis, dans la barque, mais son cœur veillait pour se réveiller enfin au moment opportun. Et ce moment est arrivé. C'est l'offrande de la vie de la pucelle pour son Dieu, pour sa patrie. Le pain d'effort la soutiendra jusqu'à son dernier soupir. C'est lui qui la fera protester qu'elle est une bonne chrétienne, qu'elle n'est ni hérétique ni schismatique. Et c'est avec la triple invocation de Jésus, le même Jésus qu'elle venait de recevoir dans la Sainte Eucharistie, qu'elle rendra son âme à ce même Jésus. Le cœur de Jeanne restera intact au milieu des cendres à cause de son Dieu qu'elle aura reçu, qui aura habité en elle comme dans un autre tabernacle vivant. Chers fidèles, nous avons donc accompagné Sainte Jeanne d'Arc depuis sa première jusqu'à sa dernière communion, communion en viatique. Quelles considérations pratiques pourrions-nous en retirer? C'est de nous rendre compte que notre âme, c'est notre propre champ de bataille. Bataille contre 3 armées bien formidables, celle du démon, celle du monde, et la notre propre, c'est nous-mêmes. Pourquoi nous sommes là si rarement victorieux, si souvent en déroute? Parce que nous nous tenons éloignés de la source de la vertu, ou bien nous en profitons mal ou peu, loin du pain de fort. Nous sommes faibles, mais l'hostie est notre force. Nous sommes aveugles, mais elle est notre lumière. Nous sommes attaqués, mais elle est notre donjon, voire notre machine de guerre. Le général Sonnis, un grand chrétien, qui devait s'illustrer à pâté comme la pucelle, disait « Quand on a Dieu dans son cœur, on ne capitule jamais. » On peut ajouter « On cède devant l'ennemi parce qu'on est seul. Soyons deux. Doublons-nous de la divinité. Prenons Jésus aussi pour notre compagnon de guerre. Et alors, on ne se reconnaîtra plus. On ne capitulera jamais. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.